Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
C'est quoi un problème de performance? Comment est-ce qu'on mesure les performances d'une application? Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on fait ça? Ce podcast, il est là pour t'aider si tu as des problèmes de perf sur tes applications.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, l'émission où on rentre dans un sujet en particulier. Et aujourd'hui, on va parler de performance. Et cet épisode est une suite et un complément de Radio DevOps numéro 6 qui parlait de la supervision d'une infrastructure cloud. Donc, si tu ne l'as pas écouté, arrête-toi tout de suite. Je ne sais pas ce que tu fais là. Va écouter l'autre épisode, puis reviens. Si tu l'as déjà écouté, ça fait rien, tu peux aller le réécouter, ça fait pas de mal, un petit rappel. Bon, pour parler de ça avec moi, j'ai une équipe au top de la performance avec René. Bonsoir René.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
J'ai aussi Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Salut à tous.
Et enfin Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Si tu apprécies le podcast ou si tu viens d'arriver sur ce podcast, tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube si tu préfères voir nos petites bouilles. Et puis tu peux activer la cloche sur YouTube pour être notifié des sorties. Et puis si tu suis le podcast, tu peux le partager parce que ça aide justement le podcast à se diffuser. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu avant qu'on commence de notre rapport à la performance et surtout si chacun d'entre nous pouvait brièvement se présenter, où est-ce qu'on travaille, quelle expérience on a de la performance, c'est quoi notre rapport avec les problèmes de performance et les outils de performance en quelques mots. Est-ce que Nicolas, tu veux bien commencer, s'il te plaît?
Oui, alors moi je travaille chez CGWire, donc on développe une application pour fluidifier le travail des studios d'animation 2D-3D. Et en fait, je suis aussi freelance à côté pour de l'infogérance de plateforme. Et d'ailleurs, CGWire est un des mes anciens clients qui m'a embauché. Et mon rapport à la performance, depuis 2001, je travaille sur des infrastructures plus ou moins grosses, avec des clients plus ou moins gros, mais avec des infrastructures qui sont aussi pris pas mal de charges. J'ai déjà eu quelques applications qui se sont retrouvées dans des pages de pub sur des chaînes de grande écoute, donc j'ai vu l'infrastructure qui s'emballait avec des loads d'overage qui montaient à s'envoler, à crever des plafonds, avec un terminal SSH où on pouvait plus rien faire et le client qui paniquait, mais quand il regardait son compteur de connexion sur Google Analytics, il était très content parce que ça montait, et en fait, ça plafonnait jamais, et le site répondait, ça marchait nickel, etc. Donc en fait, j'ai eu différentes étapes dans tout ça. J'ai eu à la fois des incidents de performance, où tu te lèves un matin, c'est lent, tu sais pas pourquoi, et ton client t'appelle, il est totalement en panique, il court dans tous les sens parce que il perd du chiffre d'affaires parce que l'application répond pas, il y a des clients qui veulent se barrer. Et j'ai aussi eu de certaines migrations où on savait que l'application avait énormément de charges, et quand je dis énormément de charges, c'est plusieurs millions de visiteurs par mois, je sais plus exactement, mais bon, en gros, la machine elle s'en prenait vraiment plein la tête. Et pour préparer des migrations, il fallait prendre en compte la performance, donc réinstaller des nouvelles plateformes et tester, voir si avec une charge à peu près équivalente, on avait des meilleures performances ou pas. Voilà pour moi.
Eh ben merci. Est-ce que René, tu veux prendre la suite et te présenter en quelques mots et puis ton rapport avec la performance?
Oui. Alors, je travaille plus trop dans ce domaine-là parce que en début d'année, j'ai rejoint la société Red Hat. Donc je fais plutôt du développement actuellement sur un produit cloud qui s'appelle OpenStack, pour ceux qui connaissent. Et je pense qu'ils sont nombreux, ceux qui suivent ce podcast doivent connaître. Donc oui, moi j'étais plutôt confronté dans mes expériences précédentes où j'étais plutôt orienté ops, admin système et stockage. Alors j'ai pas forcément eu trop de problèmes liés à des grosses consommations liées à des gros sites internet, mais plutôt des problématiques suite à des modifications d'environnement, soit donc des déménagements de data center, des changements de d'infrastructure, qui ont induit des problèmes de performance à ces moments-là, ou pas mal de problèmes de performance aussi quand on a voulu mettre en place un certain nombre d'applications, et au début qui n'étaient peut-être pas forcément calibrées co correctement, ou qui avaient un certain nombre de défauts dans le code, et qui faisaient que ça se passait pas très bien, donc un petit peu ce que Nicolas a expliqué, des lenteurs qui rendent l'application quasi inutilisable, ou des batchs qui se chargent pas dans les temps voulus. Voilà, j'ai eu pas mal de choses comme ça, ou des modifications réseau qui impactent la latence, etc. Voilà.
Et Mathieu, à toi de me
Oui.
dire un petit peu ton rapport.
Alors, moi, je travaille chez Conto. Je suis SRE chez eux. Donc, Conto, c'est une grosse start-up française, on va dire, dans le domaine bancaire et financier. J'ai pas vraiment eu d'énormes problèmes de perf. On va dire, j'ai pas connu dans ma carrière d'environnement comme Nicolas avec des millions d'utilisateurs par minute ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, ou passer à la télé ou autre. Même si, enfin, aujourd'hui, je travaille quand même dans une grosse start-up avec beaucoup de clients, etc. Par contre, je travaille beaucoup sur des problématiques de perf. Et notamment sur comment détecter et trouver qu'il y a des problèmes de perf pour les applications du quotidien, donc c'est-à-dire pas forcément avec des millions d'utilisateurs, mais après des releases par exemple, voir les dégradations de performance après la release d'une application, ou bien voir sur telle fonctionnalité que les perfs sont pas top, parce qu'il faut savoir que des services en ligne, bien sûr il y a l'aspect pic de charge etc. à gérer, mais il y a aussi l'aspect de la perf au quotidien sur le fonctionnement normal de la plateforme qui est très important pour les clients, parce que si c'est lent, le client il va ailleurs souvent, ça se passe comme ça. Et si c'est très lent, ça plante, hein, ça timeout, etc. Ça peut vraiment causer des problèmes sur la plateforme, hein, des bugs applicatifs ou autres. Et donc moi, c'est plus de la perf sur ces sujets-là, sur vraiment de la perf applicative et sur du monitor. Enfin, on va pas faire la redite du podcast monitoring, mais sur trouver les moyens de corriger de la perf, des problèmes de performance, ou même des détecter déjà sur des applications, et parfois aussi sur des applications internes. Chez SRE, on fait par exemple du Prometheus ou des outils comme ça. Ces outils, pourtant qui sont des outils monitoring, ont parfois aussi des problèmes de perf. Pareil que pour Kubernetes, pareil pour des choses comme ça. Et donc c'est aussi travailler sur l'optimisation de la perf ou de la consommation en mémoire ou des choses comme ça sur ce genre d'outils pour éviter une dégradation des performances ou autre.
Eh ben merci. Merci. Et moi, je travaille chez l'Hydra. Je suis l'un des cofondateurs de l'Hydra, qui est un collectif de freelance et d'indépendants. Je suis aussi product owner du coup de Frogit. Et en fait, mon rapport avec la performance, ça a été au début de ma carrière de pré-freelance. J'ai été embauché par une start-up pour justement, ils avaient un seul gros dédié chez OVH, et en fait, leur application, elle s'écroulait dès qu'ils avaient 200 personnes qui se connectaient. Et du coup, mon travail, ça a été de migrer ça sur Amazon Web Services. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du cloud dans ma carrière. Et à mettre en place des tests de charge une fois que ça a été fait, et pour pouvoir suivre justement si ça suivait. J'ai refait ça, les tests de charge, sur une application qui tournait dans OpenShift, qui est une distribution Kubernetes. Pour un autre client il n'y a pas si longtemps. Et là, va falloir qu'on passe au test de charge justement sur Frogit. Et là, je me pose des questions sur comment est-ce qu'on va s'y prendre. Mais moi, je suis un peu plus loin de ça, puisque avec ma double casquette d'entrepreneur, employeur, CTO product owner, je fais beaucoup moins de techniques qu'avant, mais je continue à en faire quand même. Du coup, quand on parle de performance, et comme à chaque fois dans Radio DevOps, on va commencer à définir un peu de quoi on va parler avant d'en parler. Qui veut bien nous définir un petit peu ce que c'est que la performance, ou ce que c'est qu'un problème de performance?
C'est lent, c'est ça le problème. Après, la définition, c'est jusqu'où c'est tolérable. Finalement, c'est ça. Et d'ailleurs, on parle souvent de SLA, par exemple, sur les services web. C'est vraiment en lien. C'est sur certains services critiques, on a contractuellement par exemple, un contrat qui est écrit avec le client en disant ton serveur doit répondre en moins d'une seconde ou en moins de 500 millisecondes. Alors souvent, c'est pas ça, c'est 99,9% des requêtes doivent répondre en sous 500 millisecondes. Donc c'est contractuel parfois, faut le savoir. On pourra en reparler. Donc il y a déjà cet aspect contractuel, bien sûr. Et c'est l'aspect, si c'est lent, même à l'utilisation par les utilisateurs, s'ils se rendent compte que c'est lent, souvent les utilisateurs, ça leur pose des problèmes. Comme je l'ai dit juste avant, ils peuvent voir ailleurs. Il y a un vrai impact sur la rétention des utilisateurs sur le web, sur des pages lentes ou non. Et ça joue beaucoup sur le fait que l'utilisateur va changer de website ou non. Donc c'est très important.
Après, la notion de performance est aussi extrêmement subjective. Il y a certains sites qui répondent très lentement, mais côté UX, ils ont fait des choses très malines avec un petit sablier qui tourne. Et en fait, l'utilisateur va être beaucoup plus patient parce qu'il sait que ça travaille derrière. C'est les barres de progression à la Windows. Ah, bah c'est bon, ça travaille, donc tout va bien. Alors que si ça turbine super bien côté back-end, et que d'un point de vue utilisateur, on a l'impression que ça avance pas, les utilisateurs vont dire c'est lent. En fait, c'est pour ça que la notion de la définition de performance est super importante, c'est à partir de quand c'est lent pour un utilisateur, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et ainsi de suite.
Après, il faut vraiment se méfier des sensations, et du coup, c'est vraiment important d'avoir des métriques, des choses un peu précises pour définir ça, parce que s'il n'y a pas de choses factuelles, on peut vite partir un petit peu dans tous les sens et ça va être compliqué.
Je suis assez d'accord. Néanmoins, si une partie de tes utilisateurs te disent « Ah, c'est lent » et que toi, tu constates factuellement que c'est pas lent, c'est que peut-être tes utilisateurs, ils attendent une performance supérieure à ce que toi, tu t'attends. Donc parfois, écouter les utilisateurs, c'est bien, surtout quand tu es côté business comme moi, puisque c'est tes clients, en fait, tes utilisateurs, donc tu peux pas juste leur dire, bah non, en fait, il faut attendre. Des fois, ça marche pas. Donc la performance, c'est, si je vous écoute aussi, c'est que l'application, elle doit répondre en fonction du besoin utilisateur.
C'est ça. Si on va un peu plus dans nos métiers, on travaille tous dans la fraîche ici, on pourra en reparler, mais une dégradation de la performance cache souvent un problème d'infrastructure ou un problème dans le code. En fait, la performance est aussi importante pour ça parce que ça montre des problèmes dans ce qu'on a fait. Sans parler de l'impact sur le client, souvent les problèmes de performance montrent des mauvaises pratiques, du mauvais code, des mauvais patterns, des problèmes d'infra, etc., etc. Je te vois secouer la tête, Nicolas.
Oui, parce que tu peux aussi avoir une infrastructure qui est bien préparée, mais qui n'était pas prête à un pic d'utilisateurs non prévu.
C'est, donc elle n'était pas prête.
Du journal télé tout à l'heure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de conception, mais tu as eu beaucoup plus d'utilisateurs que ce que tu avais prévu. C'est oui. Quand je parlais tout à l'heure de mes millions d'utilisateurs au prime time, on avait prévu le truc, on a fait des tests de charge, on a tout bien préparé et ça roulait. Mais si tu as exactement la même chose, et ça en France, on sait très bien le faire, ouvrir un géoportail en disant « c'est bon, venez tous », et puis 10 minutes après, bon bah c'est plus la peine de venir, le site est par terre, machin, etc. Et en fait, même si ton infra était bien préparé, tu peux avoir des trucs qui sont pas, t'as des soucis dans le code, machin, etc. Et tout à l'heure, Christophe, tu disais, je veux préparer des tests de charge, machin, etc. Ben moi, je dirais plutôt, c'est amène des utilisateurs progressivement dedans et tu auras des retours en permanence de est-ce que c'est lent, est-ce que c'est pas lent. Et après, ben, tu peux mettre un petit questionnaire en disant à tes utilisateurs, qu'est-ce que tu penses de la performance? Est-ce que tu penses que c'est lent? Est-ce que tu penses que c'est rapide? Et tout à l'heure, tu parlais de SLA. Effectivement, tu peux contractualiser ça avec ton business. Et tu vas avoir des objectifs à atteindre, mais si tu as des objectifs, tu as un budget en face. Donc du coup, tu peux avoir ton infrastructure, tes développements, etc. Et c'est un projet d'entreprise, parce que c'est tant côté développement que côté opération, que côté business, parce qu'il va falloir trouver du pognon, il va falloir avoir des retours utilisateurs, etc. Alors là, les méthodologies DevOps prennent tout leur sens, parce que c'est vraiment un travail d'équipe.
Justement, tu parles de test de charge et comme on est encore dans la partie définition, est-ce que tu veux bien nous définir un petit peu le test de charge ?
Ouais. Alors, le test de charge, ça va être un test qui va permettre de simuler un comportement d'utilisateur ou d'un robot qui viendrait faire des choses sur sur notre application. Et on va essayer de faire en sorte que ça soit le plus représentatif possible. Donc, on va essayer de retrouver un parcours d'un utilisateur. Donc, l'utilisateur, il va s'inscrire, il va remplir tous les champs qui correspondent, il va aller uploader des fichiers, machin, etc. Et puis, il y a un autre profil d'utilisateur, c'est l'utilisateur qui est déjà enregistré. Donc, lui, il va se connecter, il va aller faire une recherche, il va aller regarder deux, trois trucs, etc. En fait, on va rentrer tous ces différents profils d'utilisateurs. Et en fait, on va avoir un outil qui va reproduire ces profils d'utilisateurs en X exemplaires. Et donc, au lieu d'avoir un seul utilisateur qui fait une seule chose, on va en mettre 100 en même temps, qui vont faire exactement la même chose, mais de manière décalée, parce que les utilisateurs, quand ils viennent sur notre site, ils viennent pas tous en même temps. C'est, y a des latences réseau, machin, etc. Et en fait, on va simuler tout ça. Et on va avoir une charge qui va être représentative d'un certain cas d'usage. Alors, j'insiste bien sur le côté certain, machin, etc. Parce que les utilisateurs, ils font jamais tout le temps la même chose. Donc on essaye de mettre des choses représentatives. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais ces choses-là, ça se prépare. Et des fois, c'est absolument pas représentatif. On a fait notre test de charge, on est hyper confiant, on est en prod, et paf, tout se casse la gueule parce que on n'avait pas prévu qu'un utilisateur désactiverait les cookies ou je sais pas quoi.
Ouais, alors dans le même champ lexical de l'arme à feu, a priori, on a le terme tir. Est-ce que tu peux nous le définir un peu plus brièvement, s'il te plaît ?
Eh ben, en fait, un tir, ça va être une seule exécution d'un test de charge. On va lancer X utilisateurs en X temps, et donc c'est paramétré, et c'est défini.
Nickel, merci.
Je pense qu'on peut, je peux juste rajouter un petit truc, c'est que ce qu'a décrit Nicolas, c'est très vrai dans les applis web, mais après, ça peut, enfin, pour être, c'est plus générique, en fait, c'est vraiment ce que tu as dit au début, c'est vraiment simuler l'activité donc humaine quand c'est un utilisateur, ou le batch, si c'est un batch, ou voilà.
Ou les appels API, si c'est une API par exemple. Appels, voilà.
Ou alors tu peux simuler des clients lourds dans lesquels tu vas aller cliquer, machin, etc. Mais là, c'est un peu plus spécifique, mais ça existe aussi.
Ouais, je crois qu'en voyant les notes de l'épisode, on va quand même se concentrer plus sur le web parce que c'est ce qu'on se connaît le mieux tous les quatre. Mais en effet, tout s'applique aux clients lourds et autres. Est-ce que Mathieu, tu veux bien nous définir ce qu'est un APM ?
Alors APM pour Application Performance Monitoring, c'est souvent des outils qui ont cette appellation, qui on va dire sont des agents qu'on peut installer d'une manière ou d'une autre, le lier à son code du moins, l'activer et récupérer toutes sortes de métriques sur son application. Des outils comme New Relic par exemple se disent APM, c'est un bon exemple. Moi j'ai une vision contrastée de ces outils dans le sens où c'est souvent des outils vus un peu comme des outils un peu magiques, c'est-à-dire on les met, hop, voilà, ça monitore. Souvent les devs se disent c'est cool, j'ai ça donc j'ai plus besoin de mettre de métriques, alors que c'est une grave erreur. Et j'ai tendance à dire aujourd'hui qu'une application bien monitorée n'a pas forcément, on pourra en parler, mais c'est pas un sujet sur le monitoring, attention. Une application bien monitorée n'a pas besoin d'un APM propriétaire dégueu à installer à côté de l'appli, mais ça c'est mon avis. Je ne sais pas si c'était clair.
Justement, on parlera des outils à la fin.
Voilà.
Oui. Ça répond. De toute façon, on va rentrer dans les détails à chaque fois. Vas-y, René.
Ouais, ce que je voulais juste dire, c'est que faut jamais oublier que tous ces outils, aussi puissants qu'ils soient, il y a toujours une phase d'analyse pour essayer de comprendre ce que veulent dire les métriques et trouver. Donc, malheureusement, à un moment, il va falloir un peu qu'il y ait des gens qui s'y collent et qui essayent de comprendre.
Et une dernière
fausse
quand même.
Aussi arriver que vous l'installez un jour où vous avez un problème de performance et en fait l'application devient inutilisable parce que vous avez installé l'APM.
C'est ce que j'allais dire. Des fois c'est l'APM qui prend tellement de place dans l'appli, qui capte tous les appels système ou autre, c'est lui qui crée le problème. Je suis pas fan des APM, pour personnellement.
Alors moi, j'adore, j'ai eu des problèmes que en PHP. Après, ça situe un petit peu.
D'ailleurs, que ce soit des APM ou des solutions de supervision, il faut faire attention à la place que ça prend sur le serveur, la place en termes de ressources machines, mémoire, etc. Même disque. Hein. C'est important que l'outil qui nous permet de superviser l'application ne charge pas trop le serveur, justement, alors qu'il n'est pas là pour ça.
Est-ce que je peux juste rajouter un petit truc ?
Vas-y.
Parce que je sais pas trop le caler, en fait, et je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est parce que je sais pas, c'est pas vraiment des problèmes de performance en tant que tel, mais parfois moi j'ai aussi vécu des, souvent c'est à la mise en production de certaines applications quand c'est mal calibré, des choses qui peuvent mal se finir, c'est-à-dire c'est pas que ça se met à ramer, c'est que ça se met à exploser parce que je sais pas, on a dépassé une limite mémoire ou des paramètres kernel qui sont pas bons, etc. Et alors c'est pas vraiment de la performance en tant que telle parce que c'est fatal, mais c'est aussi des choses qu'on va voir arriver au cours du temps et ça peut marcher pendant assez longtemps, et puis un phénomène peut venir faire un déclencheur sur ce type de choses. Voilà.
Alors, je suis à la fois totalement d'accord et à la fois un petit peu pas d'accord. C'est pour moi, ça fait vraiment partie de la performance. Et c'est justement ce que tu vas essayer de retrouver avec tes tests de charge, où tu vas pousser l'application dans ses retranchements. Et ce que tu veux, c'est qu'elle continue à répondre. Parce que si elle répond pas ou si elle crache, là, c'est une perte de business totale. Et moi, je préfère une application qui va me répondre en 10 secondes, mais elle va renvoyer quelque chose, plutôt qu'un gateway timeout, machin, etc. Et du coup, tu perds des connexions, ton application va avoir un comportement bizarre, ou alors complètement crasher, et donc il faut attendre que ça redémarre, machin, etc. Donc, pour moi, la performance, c'est aussi ce que tu viens de mettre.
Pour moi aussi, mais j'étais pas à 100%. Voilà, je suis pas sûr que tout le monde qualifierait ça comme un problème de perf, mais.
Alors, je vous propose que, comme on est encore dans la définition, qu'on avance un petit peu parce qu'on est déjà à 22 minutes et on est à l'introduction. Du coup, on va parler un petit peu des méthodes. Moi, je suis assez curieux parce que c'est un sujet que je connais un peu moins que vous trois. Du coup, je sais que Mathieu, il a mis plein de notes dans les méthodes sur comment. Et Nicolas nous montre un livre. Nicolas, si tu pourras nous mettre le livre dans les notes de l'émission.
Oui.
Et vu que tu es en train de le montrer à l'écran et qu'on est aussi sur YouTube en vidéo, est-ce que tu peux nous en parler? Et après, Mathieu pourra continuer sur... En gros, l'idée, c'est quand on constate qu'on a des problèmes de performance, quelle méthode on peut utiliser pour essayer d'analyser? J'imagine que c'est ça le sujet.
Eh ben, vous achetez le bouquin de Brendan Gregg qui s'appelle System Performance, Enterprise and the Cloud. Et la méthode, justement, Mathieu va nous en parler.
C'est ça, donc Brendan Gregg, dieu vivant de la performance dans l'informatique, hein, qui a longtemps travaillé chez Sun, puis chez Netflix, qui a un super blog sur le sujet, souvent très bas niveau, mais c'est vraiment super intéressant. C'est un très 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 grand ingénieur. Et il a écrit une méthode, en effet, enfin il a inventé une méthode, il a défini une méthode qui s'appelle use. Donc use, pour le U, c'est pour utilization, donc le temps qu'un service est travail, on va dire, fait quelque chose. S pour saturation, donc la saturation, finalement, est-ce que mon service va atteindre ses limites ou non? Où est-ce que j'en suis finalement dans l'utilisation de mon service? Et E pour errors, donc finalement le mon error rate, enfin le nombre d'erreurs que j'ai sur mon application. Donc il a un article sur le sujet, c'est une méthode où il explique en effet sur comment mettre ça en place avec quelques exemples, etc. Souvent des exemples très bas niveau. Brendan Gregg, c'est quelqu'un qui travaille vraiment très proche du hardware parfois, ou ce genre de choses. Ça peut aller très très loin, c'est très intéressant. On a une autre méthode aussi. Alors déjà, est-ce que quelqu'un veut peut-être reparler de Hughes et de Brendan Gregg, parce que c'est vraiment quelqu'un de très important dans le domaine de la perf. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ok, super. Et il y a une autre méthode inventée par Grafana, codifiée, parce que finalement c'est des choses qui n'ont pas été inventées. On faisait de la perf et du monitoring avant d'avoir le nom de la méthode, qui s'appelle RED, qui s'inspire un peu de use mais un peu différente. C'est une méthode que j'utilise beaucoup. Donc dans RED, le R c'est pour rate, donc le nombre de requêtes par seconde, par exemple sur un serveur HTTP, le nombre d'événements par seconde. Le E c'est pour errors, comme avant, le nombre de requêtes en erreur ou d'événements en erreur. et le D, c'est pour duration, donc le temps d'exécution. Voilà, donc c'est deux méthodes, on va dire, un peu codifiées, mais finalement qui sont assez proches. Et finalement, on va dire, c'est pas une science exacte, hein, la performance. Finalement, parce que savoir le nom de la méthode, c'est une chose, savoir quoi monitorer, c'en est une autre. Ça, ça vient avec l'expérience aussi. Voilà, peut-être si quelqu'un veut réagir ou...
Bah, je pense quand même que ce qu'il faut, enfin, souvent, c'est ce qui a motivé un peu cet épisode, c'est aussi ce qu'on a vu sur les compagnons du DevOps, des gens qui arrivent et qui posent des questions par rapport à certaines problématiques de performance. Je pense que le BABA, on rentre vraiment dans le DevOps, là, pour le coup, c'est de mesurer avant de faire quoi que ce soit, c'est d'être capable de mesurer ce qui va se passer et de mettre en place une méthode, ce dont parlait Nicolas, pour faire des tests de performance et des tirs, quelque chose qui va nous permettre de reproduire.
En effet, il est bon de rappeler qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas, et la mesure est un des cinq piliers du DevOps, c'est hyper important. Et justement, la performance, on la mesure, mais aussi on peut provoquer les problèmes de performance. Je vais continuer à laisser la parole à Mathieu, je pense que tu es bien là.
Oui, tu parlais des cinq piliers du DevOps, on aime bien les piliers dans l'informatique, hein, parce qu'il y a aussi les trois piliers de l'observabilité. Donc on va éliminer tout de suite les logs. Les logs, c'est bien, mais arrêtez de mettre des métriques dans vos logs, voilà, ça remplace pas des métriques ou des traces, donc on fait pas de la perf, selon moi, avec des logs. Voilà, fin du sujet log. Ensuite, on a les métriques, c'est un sujet très important, on en a un peu parlé, mais il faut monitorer un certain nombre de choses dans nos applications ou sur nos serveurs. On va peut-être discuter plus tard de qu'est-ce qu'il faut monitorer, mais voilà, le nombre d'erreurs, le temps d'exécution de requêtes HTTP, par statut, le nombre de réponses par statut code, pour donner quelques exemples sur une API. C'est très important de mesurer pour, comme a dit Christophe, savoir qu'est-ce qui se passe. Si on n'a pas de métrique, on ne sait pas ce qui se passe. Et enfin, on a les traces. Donc les traces, c'est assez intéressant. Ça vient en complément des métriques, ça ne les remplace pas. Les métriques sont une vue agrégée, finalement, de ce qui se passe sur la plateforme. Nombre d'erreurs par seconde, nombre de requêtes par seconde, temps d'exécution moyen, on va dire médiane ou des choses comme ça, médian plutôt. Les traces, c'est, je prends une requête HTTP, je peux voir tout son circuit à travers, par exemple, plusieurs services, bases de données ou autres, et voir vraiment pour chaque étape où j'ai passé du temps, au final. Donc, c'est vraiment une vue unitaire d'une requête ou d'un événement. Là où les logs et là où les métriques, ça va être une vue un peu agrégée via des formules mathématiques.
Voilà. En gros, pour schématiser un petit peu, c'est les traces, c'est ce que vous avez dans votre Chrome avec le graph network où vous voyez toutes les requêtes qui défilent les unes à côté des autres. Et les métriques de performance, c'est quand vous ouvrez votre monitor system, votre OS top, vous avez votre CPU, votre mémoire, mais vous ne savez pas quelle application grignote ses ressources.
C'est exactement
ça. Si je peux juste me permettre une petite note, juste pour ne... Enfin, c'est pas nuancé, mais oui, les logs, c'est pas forcément pour la mesure, c'est pas l'idéal, ça c'est sûr. Après, je pense que ce que tu as voulu dire, c'est de ne pas mettre de logs. Les logs, ça va être forcément très utile pour savoir ce que l'appli fait quand on va être... Voilà. Donc, je voudrais pas que ce soit pris... Comme quoi les logs ça sert à rien.
Non, mais je vais donner un exemple.
Juste, j'ai une question oui. Parce que pour un béotien comme moi qui n'a pas encore l'habitude d'utiliser des traces, moi quand je vois traces, je me dis mais c'est quoi la différence avec une log, une trace? Est-ce que juste vous pourriez faire la différence entre les deux?
Je peux le faire. Un log,
peut-être que ça n'a rien à voir, je sais pas. Mais
un log, c'est un message finalement. C'est il s'est passé ça dans mon application, j'ai eu telle erreur ou autre. Une trace, c'est quelque chose qui va être initialisé à un moment. Mettons, quand la requête arrive sur ton service, même initialisé par ton load balancer devant ton service, on va mettre un petit ID en header de ta requête en disant, c'est mon ID 1. Enfin, voilà, c'est un UID. Bon, là, pour le podcast, on va dire c'est un numéro. C'est ma trace numéro 1. Et ensuite, dans ton service, tu vas avoir un peu des checkpoints à l'intérieur de ton service qui vont enregistrer. Ils vont dire, ah bah tiens, ça c'est... par exemple, j'ai fait un appel de données. Il a été déclenché par ma requête qui était taguée 1, qui avait 1 en header. Et ensuite, tu fais un appel à un autre service et tu forward, tu continues de transmettre cette trace en header. Ton autre service, ton second service reçoit, par exemple, ta requête HTTP, avec encore en header trace égale 1. Et là, il va dire, ah bah tiens, c'est encore la trace égale 1, et bah boum, je remets un peu un checkpoint, voilà, je refais une span ou, voilà, dans le vocabulaire, donc je rajoute de l'information, etc. Et en fait, tu peux tracer comme ça, au sein d'un service, mais aussi au sein d'une collection de services, le chemin qu'a fait une requête. Une requête qui déclenche une autre requête, qui déclenche une autre requête, qui déclenche une autre requête, qui déclenche un appel de données, un appel à une base de données, par exemple, ou à un autre service interne, ou n'importe. Et au final, tu vois vraiment ce déroulement d'exécution de ta requête et tout ce qu'elle a déclenché et où est-ce que tu as passé du temps au final sur tout ce cycle de vie. Je ne sais pas si c'est très clair.
C'est une des difficultés avec les systèmes distribués parce que chaque service pourrait avoir son ID à lui et du coup ça va être super difficile d'arriver à trouver le lien entre une requête qui va passer dans plusieurs services. Et donc les traces, ouais, ça va permettre d'avoir quelque chose qui unifie et avec effectivement un numéro unique et être sûr que ben de bien voir où elle est passée, dans quel service elle est passée et combien elle a pris de temps.
Pour ceux qui seraient devant un ordinateur pendant qu'ils écoutent ou qu'ils regardent, ils peuvent faire une pause et regarder. J'ai mis dans les notes de l'épisode l'outil qui est développé par Grafana, donc la suite Prometheus, c'est Tempo. Donc Tempo, il est vraiment fait pour collecter les traces et les visualiser. Donc vous aurez une idée de ce qu'on peut faire avec ces traces-là.
Je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail quand on abordera la partie outils. Je sais plus où on en est des notes parce que je suis un peu perdu.
Et moi, je voulais revenir rapidement sur les logs. Les logs sont quand même importants. Donc, comme le disait Mathieu, faut pas mettre des trucs de performance dans les logs. Par contre, on a dit que dans le use, il y avait les erreurs. Et c'est très important d'avoir des logs où vous tracez systématiquement toutes les erreurs que vous avez eues. Parce que si vous avez des 404, si vous en avez trop sur une URL, c'est un problème. C'est pas juste quelques erreurs par-ci par-là. Il y a un problème quelque part. C'est vous avez des requêtes SQL qui échouent, il faut pouvoir le tracer. Et à contrario, ne tracez pas n'importe quoi. Moi, je vois, il y a des développeurs qui rajoutent des prints, et du coup, ça pourrit les logs. Et alors là, moi, j'arrête de regarder parce que c'est inexploitable. Il y a l'écran qui défile. T'as beau avoir une connexion fibre, tu vois rien passer là-dedans. Alors, et c'est là où c'est important d'avoir des logs bien formés, avec le bon contenu, avec la bonne pertinence, parce que vous allez les voir défiler. Et puis, l'œil humain, il sait très bien travailler. Il va repérer les occurrences et va dire, oh, ça c'est bizarre. Et vous allez regarder et vous allez vous dire, bah oui, bah tiens, c'est cette erreur-là, elle est quand même assez fréquente. Et là, vous allez faire du bread dans les logs, machin, etc. Mais vous aurez une piste de où aller chercher.
Alors, juste très rapidement sur ça, pour finir sur la partie log. Moi, la grosse distinction que je fais, c'est les métriques servent à détecter le problème. Donc, par exemple, mon endpoint http/toto, il sort plein d'erreurs 500. Et ensuite, le message associé à ces erreurs 500, là, c'est un log. Mais on ne met pas une alerte pour moi sur un log. L'alerte, le problème vient d'abord de la métrique, mon error rate, voilà, mon ratio d'erreur, etc., qui me montre que j'ai un problème. Et ensuite, j'ai les logs avec le détail, là, avec un vrai message d'erreur, une stack trace selon votre langage, bref, un truc avec du détail. Et évitez de faire comme Nginx et de mettre des métriques dans les logs, et ensuite, vous devez parser ça pour sortir de la perf. Dans notre métier, on est très orienté infra, donc les métriques système, souvent, elles sont connues, on pourra peut-être en parler aussi plus tard. La RAM, le CPU, les limites, nombre de fichiers ouverts ou autre. Ce qui est très important, c'est les métriques applicatives également. C'est ce qu'on dit juste avant, il faut vraiment des métriques dans vos applications, c'est que comme ça que vous verrez qu'il y a des problèmes. On parle souvent de monitoring, faire de la perf sur une application sans avoir des métriques dans cette application, mais en essayant de la regarder depuis l'extérieur, c'est très compliqué. On a besoin de savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, et ça demande du code à l'intérieur de l'application.
Juste, je vais rebondir. En effet, c'est important de faire de la performance à partir du moment où vous avez mis en place un outil de supervision. C'est pour ça que je vous ai envoyé sur l'autre épisode de podcast avant, parce que vous ne pourrez pas faire de performance si vous n'avez pas de métrique. C'est pas possible. Et les deux vont être complémentaires.
Tu pourras, mais alors je ne te dis pas comment tu vas galérer. Parce que quand on dit c'est lent, Nicolas, l'application elle est lente. Ok, alors je viens d'arriver dans la boîte, c'est où le système de métrique machin? Il n'y en a pas, tu sais pas quand est-ce que ça a commencé, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut aller regarder, machin, et là tu pleures.
Oui, mais Nicolas, essayons de ne pas conseiller de mauvaises pratiques à notre auditeur, donc évite de le faire, s'il te plaît, pour ta santé mentale. Alors, René, tu voulais rebondir.
Je vais même aller plus loin que ça, c'est quand tu arrives dans une boîte, s'il n'y a pas ça en place, c'est le premier truc à faire.
Ouais, ce que je voulais dire, c'est que je pense même que des fois, la partie applicative, elle est, à mon avis, plus difficile des fois à mettre en place. Mais elle est souvent, pour moi, la plus de valeur parce que parfois, on peut avoir des métriques qui sont surprenantes sur un système, mais c'est pas pour ça qu'il y a forcément un problème de performance à cet endroit-là. Donc, avoir la vue de l'utilisateur, savoir si le service est disponible et s'il répond dans un délai acceptable, ça c'est vraiment important, mais pas forcément le plus simple à faire.
Ouais, en effet, parce que mesurer la performance c'est une chose, après c'est comment le faire. Alors il y a plein d'outils, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas un podcast sur monitoring, mais les histogrammes par exemple c'est très utile, et souvent ce qu'on essaye de se dire c'est ce que je veux dire, c'est que le but c'est pas de savoir ouais il y a une requête qui est lente, ça on s'en fiche. Ce que je veux savoir c'est 99% de mes requêtes, quelle est la performance, on va dire, à peu près de 90, 99%, 99,9% de mes requêtes, un peu comme les SLA, d'avoir des objectifs. On appelle ça souvent des SLO. Donc l'idée, c'est se dire, moi j'ai un objectif, je veux que 99,9% de mes requêtes se déroulent en moins d'une seconde sur mon serveur HTTP, et je mets en place des métriques ensuite. Pour voir que si je respecte ou pas ce SLO. Donc ça peut être un SLO interne, mais c'est pas forcément un contrat. Et la métrique de la latence, on appelle ça un SLI, généralement. Et c'est ça, généralement, qui est mis en place pour mesurer la performance via des histogrammes, via des error rates, via de la latence sur des queues ou des choses comme ça, des thread pools, mais je vais pas rentrer dans le détail. Et un dernier point qui est très important, c'est la cardinalité des métriques et les labels associés à ces métriques. Avoir une métrique qui dit mon application web, le temps moyen de toute l'application, c'est ça, ou le temps de 99% des requêtes, c'est ça, c'est pas important. Moi, je veux l'avoir par endpoint. Je veux savoir c'est quoi les performances de slash toto, slash titi, en post, en get, en delete, etc., etc. Donc ça, on appelle ça des labels qu'on associe à des métriques. Et l'idée, c'est de monitorer, on va dire, assez précisément pour vraiment pouvoir faire la distinction entre deux appels. Si vous avez deux appels qui est lent, un qui met une... enfin, vous avez deux appels sur une application web, un qui met une seconde, un qui met 10 secondes, peut-être que vous allez avoir l'impression que tout est lent. En fait, il n'y a qu'un appel qui est lent. Et c'est sur ça qu'il y a le problème. Et donc, avoir une vue globale ici serait pas très utile. Avoir des vues avec des labels corrects, c'est très important. Et également, juste pour finir, après j'ai terminé, je crois, c'est avoir des métriques à tous les étages. Par exemple, vous avez un load balancer qui appelle un serveur HTTP, qui appelle une base de données. Et ben moi, ce que je veux, c'est des métriques côté load balancer. Combien de temps met mon load balancer à faire son appel et avoir la réponse sur mon application web? Dans mon application web, je veux le temps d'exécution de la requête, combien de temps j'ai mis à faire le traitement de A à Z. Et ensuite, quand j'appelle ma base de données, je veux le temps d'exécution de ma requête. Et c'est cette chaîne de métriques qui est très importante, parce que quand vous avez un problème comme ça, vous voyez exactement immédiatement où est le problème, parce que parfois si vous avez juste des métriques à un endroit, mais en fait c'est lent avant, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore entré dans la mesure en quelque sorte. Donc c'est important d'avoir ces métriques à tous les étages pour pouvoir très facilement voir à partir d'où finalement dans votre chaîne d'appel ou dans votre code le problème apparaît. Voilà.
Je vais revenir sur ce que tu disais sur les historigrammes. En fait, c'est vraiment important d'avoir des graphes parce que, encore une fois, c'est plus ça sera simple, plus vous irez vite. Et moi, j'ouvre mon dashboard avec toutes mes métriques et puis je mets une plage de temps plus large, parce que si on me dit que ça a eu lieu entre 14 et 15 heures, et ben, je vais mettre mes données sur 24 heures, puis je vais regarder et puis je vais faire défiler sur mon écran tout, puis je vais regarder où est-ce qu'il y a des pics. Et en fait, si vous avez toutes les métriques, système, réseau, machin, etc., vous allez retrouver les pics. Et des fois, vous aurez des graphes qui seront plats parce que cette métrique système, elle bouge pas. La mémoire, elle est constante, donc ça veut dire que c'est pas un problème de mémoire. Le CPU, il monte, et puis il y a une crête. Là, c'est peut-être un début de piste. Et en fait, vous allez faire défiler tous vos graphes comme ça, et ça va être une aide pour trouver le petit truc qui le petit grain de sable dans votre engrenage, et ça va pas résoudre votre problème, mais ça va vous donner une piste de où creuser plus tard.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Un autre exemple que j'ai en tête, que j'ai vu récemment, c'était un problème de lenteur sur une application. Et en fait, on voyait vraiment. Et ensuite, il s'est résolu. Et en fait, on voyait vraiment dans l'auto-scaling en fait, des applications, qu'il y avait des nouveaux nœuds qui étaient créés, etc. Mais le temps qu'ils arrivent, bah, c'était un peu plus lent que la normale. Et ensuite, bah, ça rebaisse parce que la plateforme a fait son travail. Et finalement, juste un point sur l'alerting. Sur quoi alerter? Ben, je l'ai un peu dit, on alerte sur des métriques, on n'alerte pas sur des logs, on n'alerte pas sur des traces. Et surtout, le but, c'est d'alerter avant que les problèmes deviennent, de perf deviennent des vrais problèmes. Vous avez un endpoint HTTP qui passe de 0,5 secondes, on va dire le P99, donc en gros, votre 99% des requêtes s'exécutent en 0,5 secondes au moins. Et d'un coup, ça passe à 1 seconde 5, bah ouais, l'application, elle fonctionne encore. C'est pas encore un problème. C'est lent, c'est un peu plus lent. Vous n'avez pas de downtime. Mais en fait, il ne faut pas laisser le problème se dégrader. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi, par exemple, après une release d'une application, bah, j'ai fait x2 en perf. Même si l'application est toujours utilisable, la perf, c'est un travail au quotidien, au final. C'est pas un truc qui se fait que quand on a des incidents ou que quand on a des problèmes, parce qu'en fait, là, c'est déjà trop tard. Et donc, il faut pouvoir vraiment avoir cette culture de la perf et l'avoir au cours du temps, voilà, monitorer au cours du temps et alerter dessus. Pour voir des dégradations en fait et pas attendre qu'on arrive à des perfs dégueulasses pour se dire ouais il y a un problème, il faut qu'on investisse du temps, parce que là vous allez en plus y passer beaucoup beaucoup de temps.
Et d'ailleurs par rapport à ça, je vais en parler rapidement, mais c'est Elasticsearch que j'utilise pas du tout, mais je sais que dans les solutions enterprise il y a la possibilité, vous envoyez tous vos métriques, tous vos logs dedans et ils ont une solution qui fait du deep learning sur toutes vos métriques, tous vos logs, machin, etc. Vous le rentrez en fonctionnement nominal, le truc il apprend et quand il y a des incidents, vous le notifiez et au bout d'une certaine période d'apprentissage, le truc va vous faire votre monitoring automatiquement et dès que vous aurez des problèmes de performance, hein, il va vous alerter. Vous pouvez cocher une case dans le bingo bullshit.
Ouais,
en parlant de cocher des cases, je vois que toutes les cases de Mathieu sont cochées. Et René, tu avais plein d'autres petites choses à nous dire. Est-ce que tu veux prendre la suite?
Ouais, bah, je peux dire bah, souvent ce qu'on voit, et on l'a vu un petit peu sur des fois des messages sur le forum des compagnons, c'est des gens qui en gros qui veulent déjà modifier du code avant de vraiment avoir mesuré ce qui se passe en fait. Je pense que voilà, ça rejoint ce que je disais au début ou ce qu'on a tous dit, c'est vraiment première chose c'est mesurer et de se faire quelque chose où on peut voir que ce qu'on va faire, si on influe dans le bon sens ou pas quoi. Après ben ce que je voulais dire aussi c'est que parfois c'est pas comment dire, c'est pas si évident que ça, c'est problématique, et parfois c'est contre-intuitif en fait. C'est-à-dire que des fois on agit sur quelque chose en pensant qu'on va améliorer les choses, et puis des fois pas du tout. Donc encore une fois, ça revient à ce que je viens de dire juste avant, mais voilà, il faut absolument mesurer et faire ces changements, quand on fait des changements, les faire un par un. Et pas commencer à modifier dans tous les sens, je fais ça à tel endroit, je mets un coup de clé à l'autre endroit, et puis après, on sait plus ce qui a été bénéfique et ce qui ne l'a pas été. Moi aussi, ce que j'essaye de faire souvent quand j'ai ce type de problématique, c'est des mutations un peu extrêmes. Par exemple, quand on règle des paramètres, pour bien voir la différence, je trouve que ça aide, c'est de passer un peu de, ben voilà, de changer d'un ordre de magnitude, parfois sur certaines valeurs, vraiment faire des changements drastiques pour voir ben, pour voir comment ça va se comporter plutôt que des fois faire des choses un peu fines où on voit pas trop si on a amélioré ou pas. Voilà, après ce que moi j'ai constaté dans ma carrière, c'est quand même que beaucoup des problèmes, c'est souvent des problèmes liés à l'IO plus souvent que CPU. Après voilà, je pense que mes collègues, je sais pas ce qu'ils en pensent.
Je suis d'accord. Globalement, enfin, faut monitorer les IO toujours avec la méthode RED, moi, ce que je fais tout le temps. Mais juste deux choses, quand c'est pas l'IO, c'est de la crypto. Donc, voilà, faire du hashing de password avec Bcrypt, des trucs comme ça, c'est méga lent. Ou c'est du calcul de SHA ou de MD5. On se rend pas compte, mais c'est méga lent aussi. C'est deux choses que j'ai vues qui posaient souvent des ralentissements. Enfin, des algos pourris, ça arrive aussi, hein. On pourrait parler de complexité aussi dans ce podcast, mais voilà, c'est tout, enfin, de algorithmique on va dire, mais attention à tout ce qui est, je dirais, IO, mais crypto, ouais, tout ce qui est cryptographique et hashing, c'est super lent, très souvent.
Ça tombe bien, c'était mon point suivant, en fait. C'est que, enfin, moi, ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est, enfin, souvent, les gros gains de performance, ils se font très souvent sur l'appli. Enfin, moi, j'ai un peu cette règle-là, je dis c'est un 80-20, c'est-à-dire que les 80%, ça va être en changeant ce qui se passe dans l'appli, en l'améliorant, et justement, les notions de complexité, elles sont importantes. Réduire la complexité algorithmique, à un moment, ça va vraiment produire des effets assez importants sur les performances. Et après, ben, le hardware, ça peut être une solution, mais c'est souvent que 20% de ce qu'on peut gagner, parce qu'il y a... Alors après, on peut en mettre beaucoup, mais ça a toujours des limites si l'algo est pourri ou si la requête qu'on fait, par exemple, sur une base de données, elle est vraiment très mal optimisée ou voilà, pas d'index, ce genre de choses, des choses assez basiques. On peut rajouter beaucoup de hardware, mais ça ne vaudra jamais de mettre un index sur sa base de données, quoi.
Attends, je vais Nicolas il va craquer, la tête là. Frénétiquement.
Qu'est-ce
qui se passe?
C'est ce que je dis systématiquement aux développeurs, c'est essayez pas de résoudre des problèmes de votre applicatif avec des solutions infrastructure. Donc si tu as des problèmes de performance, c'est pas en mettant un truc qui va te faire du cache, c'est pas en mettant une machine plus grosse, c'est pas en mettant plus de RAM, c'est pas en mettant plus de CPU, c'est tu vas d'abord regarder pourquoi ta requête SQL elle marche pas. Ah bah il manquait un index. Ah bon bah d'accord.
Bah ouais, mais c'est ce que j'ai dit, il me semble.
Il me semble aussi que c'est ce qu'il a dit.
C'est ce que j'ai compris.
J'ai pas entendu
aussi.
Comme ça.
C'est ce non, que j'ai compris, compris comme
moi. Ça. Bon, bah, autant pour moi.
J'ai compris comme ça.
Ouais. Bon, bah, je suis d'accord. Ouais. Non, mais moi, j'ai entendu.
Après, si je te refais très rapidement, j'ai dit que 20% des gains, ça pouvait être sur le hardware, mais que les gros gains, c'était sur l'applicatif. Et donc, côté DB, mettre un index.
Ouais, quand j'entends un développeur qui dit c'est un problème de hardware, on va rajouter des ressources, ça me fait peur. Donc, désolé, j'ai paniqué.
N'écoutez pas vos développeurs quand ils vous disent il faut une machine plus grosse. D'abord, allez voir votre APM, vos traces, allez dire aux développeurs, tiens, et si on se mettait ensemble tous les deux et qu'on regarde ensemble, est-ce qu'on peut améliorer ça? Est-ce qu'on peut améliorer ça? Et comme ça, l'Ops et le Dev, ils travaillent ensemble parce que c'est le mouvement DevOps qui est comme ça. Exactement.
Et si ton développeur est pas content et ne veut pas, tu vas voir ton comptable et tu lui dis on va multiplier la facture d'infrastructure par deux. Est-ce que tu es d'accord?
Est-ce que on a fait le tour des méthodes parce que je vois que le temps avance quand même, on est à 50 minutes. Et est-ce qu'on peut passer à la section incident?
Je voulais juste finir un tout dernier petit point.
Vas-y.
C'était vraiment attention aussi au phénomène de latence. Moi, j'ai vu pas mal de choses où, par exemple, des développements qui se font avec, par exemple, une base locale avec une très bonne latence. Du coup, ça se passe plutôt bien, ça marche bien. Et du coup, quand on déporte la base, la latence, pour différentes raisons, peut changer de manière assez importante, et du coup ça peut induire des gros problèmes de performance, et les problèmes liés à la latence souvent c'est assez compliqué à fixer.
La machine du développeur est en SSD, l'intégralité de la base est en cache en RAM,
voilà, attention à ça.
Et ben merci pour cette précision.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Eh ben, on va pouvoir parler des incidents. Et puisqu'on... Alors, quand on a un incident de performance, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais avant qu'on commence, il est bon de rappeler qu'on a fait un épisode de Radio DevOps sur la production, l'exploitation, les astrates en informatique, où on a parlé beaucoup d'incidents. Et on a une émission avec René une libre antenne qui s'appelle Raconte-nous tes gros échecs, où on raconte des histoires de production et des incidents de production. Donc si ça t'intéresse, viens nous voir en live et viens nous raconter des trucs. Avant justement de vous laisser la parole, parce que je parle pas beaucoup ce soir, je vais vous raconter, je vais vous faire un retour d'expérience sur un problème de perf qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça sur Frogit. Donc Frogit, c'est une usine logicielle. On avait notre GitLab qui était un peu lent, je trouvais. J'ai demandé à mes collègues, ils me disaient bon, non, mais non. Sauf que moi, j'avais bien constaté qu'il était lent puisque j'y passe vraiment beaucoup de temps. Et du coup, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, évidemment, je vais voir mes métriques, je vais voir mes logs, et je vois en effet que ma CPU et ma RAM n'est pas trop utilisée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois mon disque qui est plein à 100%, mais pas tous mes disques. Mon disque qui contient mes backups. Donc évidemment, la solution pouvait continuer sans aucun problème. Et là, par contre, je ne monitorais pas mes process. Je me suis connecté au serveur, oui je sais, c'est pas bien, mais je me suis connecté au serveur, et là j'ai vu qu'en effet mes process de backup ils s'accumulaient depuis quelques jours, et ils avançaient très lentement en fait, ils avançaient très très lentement, parce que quand il y a un process de backup qui arrivait jusqu'à la fin, il libérait les backups, etc. Sauf que comme le disque était plein à 100%, bah, les process ils se sont accumulés. La première chose que j'ai fait, c'est supprimer les anciens backups, c'est killer les process qui étaient trop lents. La deuxième chose que j'ai fait, c'est ouvrir une petite carte pour dire « Attention, il faudrait qu'on mette un timeout sur notre processus de backup. Il faut aussi qu'on augmente la taille de notre disque de backup, parce que c'est important, là. » Et du coup, j'ai fait des actions correctives sur place. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais pas tant que ça, parce que j'avais des bons outils. Et ce que je pourrais faire encore, c'est superviser, en effet, les process, en plus, dans ma solution de supervision. Voilà mon petit retour d'expérience sur ce que j'ai fait sur ce problème de lenteur, qui finalement ne venait pas de l'application en elle-même, mais de l'infrastructure qui faisait tourner l'application. Et là, je vous laisse la parole à qui veut, parce que on a un beau petit plan là. Je crois que c'est Nicolas du coup. Nicolas lève la main. Ben Nicolas, je te laisse la parole.
Donc petit aparté pour les histoires de backup, mettez des alertes sur vos backups quand ils marchent et quand ils marchent pas, et regardez tous les jours. Donc, je vais vous parler de comment on peut faire quand on a un incident de production. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà eu pas mal, et notamment certains où l'application répondait plus, le patron, le client, et ainsi de suite, tout le monde m'appelle, ça marche pas, faut rebooter, machin. Donc, première étape, c'est faut pas paniquer. Très important, faut garder son calme, faut être celui qui va garder la tête froide, parce que il faut qu'on puisse réfléchir. Ensuite, il va falloir trouver comment mesurer, parce qu'on a un problème de performance, on en a déjà bien parlé, mais c'est vraiment le plus important, c'est mesurer d'abord comment vous pouvez voir, vous, que c'est lent. Ensuite, on panique pas, parce que faut garder la tête froide. Ensuite, on va chercher comment tester ou reproduire en tant qu'utilisateur. C'est s'il y a un endpoint qui est vraiment très lent, parce que je ne sais pas pour quelle raison encore, mais que c'est celui qui est utilisé par 90% des utilisateurs, ben on essaye de le reproduire avec un curl, on regarde combien de temps il met pour répondre, c'est bon, c'est ça, donc à chaque fois que je lance ce curl, c'est lent, tout va bien, donc je vais avoir ce test-là que je vais relancer à chaque fois. Donc, on garde toujours son calme, c'est très important. Surtout quand le chef vient derrière votre dos pour vous dire « faut rebooter, je gère. Ensuite, c'est, on va, René en a parlé tout à l'heure, mais ça, c'est très important, c'est vous tester une seule chose à la fois. Vous voulez redémarrer un composant? Ok, pas de souci. On redémarre le serveur SQL, ça va résoudre le problème. On relance le test de tout à l'heure, le cœur, machin, etc. Ça a résolu l'incident. Très bien, tout va bien. Est-ce que tout le monde est content? Ok. Non? Bon, bah ok. Alors maintenant, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est, on sait que c'est le goulot d'étranglement, c'est la base de données. On va essayer des paramètres de tuning. Il y a plein de trucs dans tous les serveurs SQL. Vous pouvez mettre des caches par-ci, par-là, machin, etc. Et ça, encore une fois, René l'a dit tout à l'heure, c'est on teste qu'une seule chose à la fois. On teste un paramètre, on teste un deuxième paramètre, on teste un troisième paramètre. Mais on redémarre à chaque fois et on relance le test à chaque fois. Donc c'est très important. Et une autre chose importante, ça m'est arrivé une ou deux fois de faire l'erreur, c'est vous sauvegarder à chaque fois quelle modification vous avez faite, quel impact ça a eu sur les performances au moment où vous avez fait votre curl, et ainsi de suite. Ensuite, on en a aussi pas mal parlé, il faut mesurer systématiquement tout ce que vous faites, parce que vos curls, ils ont un temps de réponse, etc. La charge de votre serveur, est-ce qu'elle évolue en fonction des paramètres que vous changez, parce que certains paramètres vont avoir une incidence sur le CPU, d'autres sur la mémoire, etc. Donc surveillez un petit peu tout ça pour voir l'évolution de l'incident. Et si c'est OK, vous retournez au point 5 et... si c'est chaos, vous retournez au point 5. Donc, vous gardez votre calme, vous refaites un test, vous rechangez qu'une seule chose, etc. Et en fait, vous bouclez là-dessus et normalement, vous devriez résoudre votre incident. Mais toujours en essayant de garder au maximum la tête froide.
Eh ben, merci. Je vais mettre le plan dans la description de l'épisode. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit faites une sauvegarde et tout. Et là, je me dis que ce plan-là, il est super intéressant quand on fait de la phrase code, parce qu'en plus, quand on fait de la phrase code, on commit nos modifs, on déploie nos modifs qui sont dans Git, et du coup, on peut, avec un outil de supervision, indiquer « Ah, le déploiement, il a lieu sur tel hash de commit », et on peut voir dans notre supervision « Ah bah tiens, tel déploiement, il a amélioré ou pas justement les performances ».
D'expérience, quand c'est vraiment la merde, tu te connectes ton SSH sur le serveur, tu modifies le fichier de configuration à la main et tu redémarres à la main. Sauf si effectivement tu as désactivé le truc qui te permet de pouvoir déployer des choses à la main. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc important, c'est quand vous avez 300 frontaux qui vont porter votre application. Déployez pas les changements sur tous, essayez de trouver une solution pour faire des tests sur un serveur d'application isolé, comme ça vous allez redémarrer que celui-là et il y a que vous qui allez atterrir sur celui-là si c'est pas un problème de charge avec du nombre d'utilisateurs mais vraiment une seule requête.
Donc, c'est vrai que ça fonctionne ce que tu dis dans un contexte VM serveur, mais dans un contexte image immuable slash Docker slash Kubernetes, c'est pas vraiment adapté.
Comment ça?
Ça dépend en fait le contexte dans lequel vous êtes.
Ouais, ça marche aussi sur Canary cube.
Sur cube.
Oui,
c'est possible.
Ouais. En fait, le maître mot de tout ça, c'est il faut réussir à isoler le problème, tester le problème. Et c'est vrai que là, ça transpirait pas dans le plan que je vous ai mis. Mais en gros, vous allez faire un espèce d'arbre de diagnostic. Vous allez dire. Il y a de fortes chances que ça soit ce problème-là. Donc, vous allez poser des hypothèses. Ça peut venir de là, de là, de là, de là, et ainsi de suite. Et vous allez dire, pour tester ça, comment est-ce que je peux faire? Donc, et puis vous allez tester, et puis vous allez rayer au fur et à mesure les hypothèses pour arriver à celle qui, il faut espérer, sera la bonne. Et puis, si ça marche pas, vous recommencez à zéro jusqu'à trouver.
Et des fois, c'est sans fin, parce que parfois, moi, ça m'est déjà arrivé. Je vois quelle est l'application qui pose le problème, on rajoute de la capa, on rajoute des instances, etc. Et en fait, cette application va mieux, mais l'application derrière cette application commence à tomber aussi. Parce que forcément, la charge se déporte, en fait. Donc c'est assez marrant, mais bon, c'est comme ça. Et sur les métriques, mesurer, comme le disait Nicolas, mesurer. Et pensez-y avant l'incident, quand vous créez à la création d'un nouveau service, dites-vous, OK, un jour, j'aurai un problème de perf dessus. Je le sais, c'est sûr, ça arrivera. Mettez les métriques. Et si vos devs ne veulent pas mettre de métriques, vous les mettez d'astreinte sur leurs applications et vous allez voir, en un mois, bizarrement, vous aurez des métriques. Donc, faites participer tout le monde à la résolution d'incidents, ça permet de responsabiliser et les gens se rendent compte aussi de pourquoi, des fois, les ops, ou même pas que les ops, pour moi, ça doit être un truc partagé finalement, c'est une sorte de métrique. Responsabilité partagée demande l'ajout de métriques sur les applications.
Ah ouais, après, c'est vrai que parfois c'est effectivement non trivial, parce que des fois ça peut être relativement simple, mais parfois, surtout dans les systèmes distribués, ce que tu dis, tu touches le service A et puis effectivement c'est le service B après qui se met à déconner, et parfois c'est vraiment compliqué.
C'est horrible. C'est les pires problèmes, le problème de perte, de toute façon pour moi.
Il y a aussi un cas que j'ai pas évoqué, et ça arrive relativement souvent, c'est lent, on sait pas pourquoi, on regarde, c'est le process PHP, Java, Ruby, Python, qui prend tout le CPU, vous essayez de faire un restart, si ça résout le problème, tant mieux, c'était un cas à la marge, par contre, si jamais ça se reproduit un jour, là, il faut vraiment chercher pourquoi ça se reproduit, Et c'est là où il faut vraiment garder la tête froide parce que votre business, il va venir, il va vous dire, ouais, c'est pas possible, faut redémarrer. C'est non. C'est, faut pas redémarrer. Là, il faut qu'on identifie pourquoi ça s'est reproduit. Parce que ça s'est produit une fois, ça s'est produit une deuxième fois, ça va se reproduire une troisième, une quatrième, une cinquième. Et la solution, c'est pas redémarrer. Parce que c'est pas viable. Sauf si vous avez des systèmes où vous pouvez faire tourner les instances, machin, mais c'est complètement foireux.
C'est, tu mets un cron tous les jours qui redémarre, c'est ça la solution au problème de terre.
Exactement.
Ça peut régler les problèmes des fois.
Ah bah comme justement... vous ne l'avez pas, la vidéo, c'était totalement ironique, hein. Ne le faites pas.
Oui. Justement, puisque tout à l'heure, tu as parlé de reproduction d'incidents, qui veut nous parler justement d'une méthode de reproduction d'incidents et de test de performance?
Moi, je veux bien en parler, mais pas
encore,
pour dire
Nicolas. Eh ben, on va laisser la parole à Mathieu avant que Nicolas prenne la parole.
Je vais pas dire grand-chose, en fait. C'est pour dire que je suis incompétent en faisant ça. Donc, je suis vraiment pressé d'écouter Nicolas parce que pour moi, le test de perf, c'est super compliqué. Souvent, c'est sur des données qui sont très peu semblables à la prod. Ça, c'est le truc classique. Hein. On fait un test en staging ou autre, on arrive sur la prod et les jeux de données en base, ils sont complètement différents. Il y a des aspects légaux sur prendre des données de prod et les mettre en staging ou autre pour faire des tests de perf. Il faut anonymiser, c'est tout un process, etc., etc. C'est aussi compliqué parce qu'on n'a jamais exactement la même chose en staging qu'en prod. On va tester juste un bout précis de la plateforme sur un test de perf. Une prod, c'est beaucoup plus vaste souvent.
Je vais raconter différentes choses du coup.
Et moi, je suis très mauvais à ça. Et en fait, tu vas sûrement parler. Moi, j'ai l'impression que la seule vraie solution, c'est de faire le test de perf en prod. Je sais pas faire des tests de perf pertinents en staging. Moi, je sais pas comment faire sur le disque. Je vais faire demain.
Je vais parler de tout ça. Donc, effectivement, il y a plusieurs cas. Moi, les cas que j'ai eus, c'était principalement soit de l'optimisation. Donc là, tu fais tes tirs en prod, et tu le fais dans une fenêtre où il y a moins d'utilisateurs. Parce que tu vas balancer tes tirs, tu vas écouler la plateforme, tu vas redémarrer les services avec tes optimisations, etc. Donc, faire ça en prod, c'est toujours compliqué, mais c'est le meilleur moyen d'avoir une plateforme ISO avec tout ce que tu décrivais. En plus, tu as des utilisateurs en parallèle. Donc, c'est bien, ça charge encore plus ton cerveau. Et l'autre cas où j'ai eu besoin de le faire, c'était quand je préparais une migration. Donc en fait, la plateforme sur laquelle je faisais mes tests de performance, c'était la future prod. Donc l'anonymisation des données, en réalité, je m'en foutais un petit peu. Par contre, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant et important parce que, comme on en a déjà parlé pas mal de fois, c'est vous aurez des problèmes de perf. Donc préparez les choses en amont. Donc faites au fur et à mesure que vous développez votre application, vous rajoutez des trucs, etc. Faites un script qui permet d'anonymiser votre base de données, qui permet d'extraire certains morceaux de l'application, enfin certaines données d'un utilisateur, d'un client, machin, etc. pour le donner à un développeur de manière totalement anonymisée. Comme ça, il va pouvoir débugger sur sa machine le truc. Et ce script d'anonymisation, vous pouvez l'utiliser pour monter une plateforme de performance. Donc, une plateforme de performance, c'est quoi? C'est une plateforme qui ressemble à la prod, alors avec des dimensions réduites, avec moins de machines. Alors, ne mettez pas une seule machine si vous en avez 10 en prod. Essayez d'en mettre une, deux, trois, avec des ressources plus petites, machin, etc. Mais vous essayez de mettre un truc qui va ressembler à la prod. Et comme ça, quand vous allez balancer 3000 utilisateurs, vous ferez des projections en vous disant bah, sur la prod, ça sera 30 000 utilisateurs simultanés. Et après, du coup, la méthode, c'est quoi? Donc, le plus important, c'est préparer ses outils. Donc, on va choisir un outil qui va faire des tests de perf. Donc, moi, j'ai beaucoup utilisé Gatling. C'est un truc qui est écrit en Scala, donc qui va paralyser vos requêtes et qui va bourriner. Et avec un poste de développement, ça suffit largement. Pensez à la bande passante, parce que si vous faites ça derrière un modem 56K, le goulot d'étranglement, ça sera votre machine. Donc vous prenez une machine chez le même cloud provider que vous avez, vous vous assurez qu'il y a suffisamment de bande passante, ainsi de suite, et vous préparez votre test. Donc votre test, vous allez créer un scénario. Donc là, il y a plusieurs solutions, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais vous allez essayer de créer des utilisateurs typiques. Mais ou alors, mais ça, il faut en parler avec les développeurs. C'est quels sont les trucs les plus critiques pour l'application. Moi, j'avais un de mes clients, c'était ce qui écroule mon site, c'est le crawling Google. Donc, il m'a dit, c'est telle page, telle page, telle page. Donc, j'ai récupéré les pages. Il affichait les petites annonces par département, ville, machin, etc. Donc, forcément, il chargeait tout en mémoire. Ça écrouait la machine. Ben, en fait, j'ai fait ça. J'ai pris toutes les pages où il y avait toutes les villes. Et mon test, il chargeait toutes les villes en parallèle. Et en fait, je lançais un scénario de test et il chargeait toutes les villes au hasard sur X utilisateurs en parallèle. Donc une fois que vous avez votre scénario qui fonctionne pour un seul utilisateur, ça va marcher pour plusieurs, vous faites un petit tir avec 10 utilisateurs pour vérifier que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de lock, machin, etc. Éventuellement, si vous avez la possibilité, vous allez tester ce scénario sur la prod, parce qu'en fait, ça va vous donner des tirs de référence. Donc, vous allez pousser la plateforme dans ses retranchements et vous saurez combien d'utilisateurs vous allez pouvoir avoir. Alors, combien d'utilisateurs, c'est quoi? C'est combien d'utilisateurs simultanés ou combien d'utilisateurs sur une tranche de temps. Et en fait, ça va vous donner une échelle à avoir. Parce que globalement, votre client, il va vous dire « je veux faire 10 fois plus ». Donc, ça va vous donner une référence. Et finalement, comme vous avez pris le test qui va écrouler la plateforme de manière sûre, tous les autres cas un petit peu à la marge, ils vont passer plus facilement. Alors, je plains ceux qui vont écouter ça en podcast parce que je parle beaucoup avec les mains. Ensuite, on va préparer sa plateforme. Donc, ça va être la plateforme, la future prod ou la plateforme de pair. On va lui charger les données. On va mettre des données identiques à la prod en termes de volumétrie et ainsi de suite. Et en fait, vous avez lancé votre premier tir. Donc, votre plateforme n'est pas optimisée. Vous allez lancer un tir. Dans l'idéal, vous prenez la cible que vous avez réussi à atteindre sur la prod. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, vous allez commencer à essayer de faire du tuning de vos différents trucs. Comme vous avez déployé votre application sur votre infrastructure cible, vous avez mis en place tout le monitoring dont Mathieu nous a parlé tout à l'heure. Comme ça, vous aurez les graphes de performance, etc. Et vous saurez exactement quels sont les points qui posent problème. Et vous pourrez ajuster les curseurs, rajouter de la RAM sur tel process, mettre plus de conteneurs sur tel process, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire un tir, vous allez analyser à la fois les données du tir. Donc, en gros, quand vous faites un tir, vous allez avoir un graphique de l'évolution des requêtes HTTP. Donc, le temps de réponse de chaque requête. Donc une moyenne du nombre d'utilisateurs simultanés, le nombre d'erreurs 500, etc. Et donc votre but, c'est d'arriver à avoir un maximum de requêtes en parallèle avec zéro erreur, parce que si vous commencez à avoir des erreurs, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre applicatif, et ça, il faut totalement le proscrire. Et après, au bout d'un moment, vos requêtes, elles vont être de plus en plus lentes, mais c'est pas grave, parce que c'est votre application, elle marche toujours. Encore une fois, c'est pas grave, mais ça dépend des SLO que vous voulez avoir. SLA, pardon. Et ensuite, on revient toujours à la même méthode, c'est qu'on fait un changement, mais on n'en fait qu'un seul. Donc, par exemple, vous voulez appliquer un tuning sur la base de données, vous notez dans votre tir quel est le paramètre de la base de données que vous avez changé, vous faites votre tir. Vous avez rajouté des workers sur votre serveur d'application, vous refaites un tir avec tant de workers sur le serveur d'application. Et en fait, vous allez faire des changements croisés pour essayer d'optimiser un petit peu et avoir l'optimum en termes de base de données, de serveur d'application, de frontaux, machin. Vous essayez de tester au maximum tous les composants que vous avez dans votre infrastructure. Et puis, comme toujours, vous retournez au point 5, vous relancez un tir, vous analysez le tir, vous faites un changement, et ainsi de suite, et vous bouclez jusqu'à être content de votre résultat. Voilà pour moi, et visiblement, Christophe avait des choses à ajouter.
Oui, parce que ce que tu as dit me fait penser à vous partager mon expérience. Alors déjà, pour ceux qui n'auraient pas compris ou pas suivi en podcast, allez voir la vidéo YouTube pour se revoir Nicolas bouger dans tous les sens. En fait, je me dis, alors je sais pas si vous avez travaillé dans des grands groupes, mais moi j'ai beaucoup travaillé dans des grands groupes et du coup je vais vous partager mon expérience sur ce qui se passe dans les grands groupes là-dessus. Pas forcément sur les tests de performance, mais sur la gestion des environnements. Parce que tout à l'heure, Mathieu nous a parlé de faire des tests en staging, alors ne faites pas ça. Hein. Le staging, c'est pas fait pour faire des tests de performance, c'est fait pour tester les fonctionnalités de votre application. Si vous voulez faire des tests de performance, soit vous le faites en prod, comme l'a expliqué Nicolas, mais dans les grands groupes, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les grands groupes, on a un environnement qui s'appelle la pré-production, qui est l'environnement avant la production, qui sert à deux choses. La première, c'est à tester les déploiements, et la deuxième, c'est à tester la performance. Parce que souvent, les grands groupes ayant un petit peu les moyens, leur pré-production ressemble peu ou prou à la production, dans des dimensions qui sont équivalentes. Et notamment, chez Casino, c'était le cas, notre pré-prod était équivalente à la prod, elle était ISO, hein. Les machines c'était les mêmes et tout. Parfois même, on faisait des rafraîchissements de données. Pour les rafraîchissements de données, je vais en parler un petit peu, parce qu'il y a un truc, c'est vrai, on a tendance à se dire, il faut anonymiser, etc., mais en fait, si votre environnement, il est interne à la société, il n'y a pas forcément besoin d'anonymiser, surtout si les personnes qui accèdent à votre pré-production sont les mêmes qui accèdent à votre prod. Là, ça n'a aucun intérêt d'anonymiser. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire attention aux emails pour éviter d'envoyer des emails aux gens si vous faites des tests en pré-production. Mais vous pouvez quand même anonymiser vos données. Ce que faisait un des clients chez qui j'étais, qui était la caisse primaire d'assurance maladie, en fait, on gérait les infrastructures dans le data center qui était à Saint-Étienne, qui gérait les infrastructures de tout Aura, Auvergne-Rhône-Alpes et autres. Donc on était à l'intérieur du data center et on avait une salle à l'intérieur du data center qui était reliée physiquement aux machines, pas de pré-production, mais à un environnement particulier, et il n'était pas connecté à Internet. Il était vraiment isolé complètement et il tournait en vase clos, c'est-à-dire que les machines étaient reliées à une salle où il y avait des ordinateurs, et si on voulait physiquement tester des choses, on allait à ces ordinateurs précis dans cette salle précise. Et ça, j'ai trouvé que quand on a les moyens, c'est le mieux. Parce que du coup, il y avait de la virtualisation, donc on relançait des environnements complets. C'est ces fameux, j'en parle des fois, c'est cette fameuse expérience où j'ai dû mettre 5 jours à installer un environnement complet parce que là-bas, rien n'était automatisé à l'époque. Mais en gros, l'idée, elle est sympa, c'est-à-dire si vous avez les moyens, et ça peut se faire de manière virtuelle avec des VPN, c'est avoir un environnement qui est complètement isolé du web, sur lequel vous pouvez vous connecter soit avec un VPN, soit physiquement, c'est encore mieux. Et là, vous faites vos tests de charge sur des environnements qui sont ISO et vous les chargez avec les données de prod parce que là, vous êtes complètement sécurisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour ce retour d'expérience. Nicolas.
Eh ben, c'est vachement intéressant parce que maintenant, avec des outils comme Terraform, Ansible, SaltStack et compagnie, vous pouvez monter votre environnement de pair et vous pouvez le monter quand vous en avez besoin. Et ce qu'il y a de vraiment génial, et je sais qu'il y en a qui le font, c'est vous avez une nouvelle release de votre application, dans votre CI, vous faites un Terraform Apply, vous avez votre infrastructure, vous faites votre Ansible, Playbook, Bidule Truc, SaltStack, iState, vous avez votre environnement de performance ISOProd qui est déployé, vous avez des données qui sont pertinentes par rapport à la volumétrie, machin, etc., et vous lancez votre gatling dessus, votre truc de perf, machin, etc., et vous regardez les temps de réponse, et normalement, les temps de réponse n'ont pas changé avec la release d'avant, donc du coup, vous pouvez envoyer ça en prod. Et comme votre test de perf est terminé, bah, vous faites Terraform Destroy, et c'est bon, ça vous a coûté 10 balles, et vous savez que votre application en prod, ça va rouler.
Mais tu voulais dire Cuttle Apply et pas Terraform Apply, je t'ai trompé.
Les deux, ça marche, ça dépend de quel contexte. Mais Nicolas est un peu joueur parce que ça vous a pas coûté que 10 euros, ça vous a coûté un peu plus cher. Déjà, il a fallu tout créer. Ensuite, ça dépend la taille de vos environnements. Mais grosso modo, ça vous coûte, mais pas tant que ça.
Mon environnement, il y a
mais par contre, c'est vrai que... C'est vrai que ça demande du temps et des compétences pour faire tout ça.
Alors sinon, dans le même style et dans les entreprises qui ont les moyens, il y a un outil qui existe, c'est GoReplay. En fait, vous prenez une capture Wireshark, vous l'injectez dans GoReplay et en fait, il va réinjecter votre trafic sur votre plateforme. Alors bien sûr, on s'arrange pour le faire sur une plateforme de test, mais en fait, ça va vous faire un test de charge réel par rapport à la prob. Et là, vous n'avez même pas à vous embêter à faire votre scénario, machin, etc. Et sinon, il y a une autre possibilité, c'est Cloudflare qui a cette option-là, où en fait, vous envoyez tout le trafic entièrement dupliqué sur une autre plateforme, qui elle ne fait rien, elle n'est pas connectée à la base de données prod, etc. Mais elle a une copie de la base de prod, et en fait, à chaque fois que vous faites une requête sur la prod, c'est envoyé sur cette plateforme-là à côté. Et en gros, vous allez comparer les temps de réponse des deux. Et donc, sur la plateforme d'à côté, bien sûr, vous avez installé votre nouvelle application avec la nouvelle release qui va tout casser parce que les développeurs ont rajouté plein de fonctionnalités et vous allez voir les temps de réponse qui ont changé.
Eh ben, merci. Ouais. Je pense qu'on peut... Vas-y, une alors, et après, seconde, on passera à la section des outils.
Si vous faites du Go Replay de mémoire, ça veut dire que vous ne faites pas de TLS. Est-ce que je me trompe ou pas encore? Je sais pas que ça ne marche pas, non, sur...
Alors, je dois dire que j'ai jamais essayé.
Ouais, non, et je voulais juste aussi dire que, en fait, dans ma boîte, la pré-prod, on l'appelle staging. D'où, Christophe, ce que tu disais.
Ah, d'accord.
Peut-être un nom étrange, alors, mais oui, en fait, ce qu'on appelle staging chez nous, c'est l'environnement avant la prod, en fait, donc, tu vois.
Et l'environnement avant le staging, c'est quoi?
Bah, après, on a des environnements. En fait, on a plein, on clique sur un bouton et on monte un environnement. On en a, je sais pas, peut-être 150.
D'accord.
Okay. C'est à la demande, c'est pas de nom.
En effet, c'est pas une définition classique que j'ai rencontrée dans d'autres boîtes. Bah, pourquoi pas?
Ouais, voilà.
C'est pour ça que j'étais un peu perturbé.
Préciser.
Bah, merci. Du coup, on va passer aux outils. Alors, Nicolas nous a spoilé, donc j'ai mis en entrée les outils de test de charge. Donc, il nous a parlé de GoReplay, qui est un outil de test de charge. On a parlé aussi de Gatling. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Gatling?
Je l'ai utilisé un peu, il y a longtemps. Ça marche, j'ai rien d'autre à dire.
Est-ce que c'est un outil qui est facile à décrire les scénarios?
Si tu sais faire du Scala, c'est très facile. Bon, plus sérieusement, j'ai essayé le module où en fait on va mettre un proxy. Et il va capturer tout ce qu'on fait à travers ce proxy-là pour en faire un scénario de test. Alors, ça marche pour avoir une idée de ce qu'on va pouvoir faire, mais je vous conseille de réécrire le test from scratch. C'est un DSL un petit peu particulier, mais ça va vous permettre de rendre votre test beaucoup plus modulaire par la suite, surtout quand vous allez vous augmenter le nombre d'utilisateurs en parallèle et ainsi de suite. Après, c'est un outil comme un autre. Il y a une courbe d'apprentissage. Si vous voulez vraiment le maîtriser, bah, ça va vous prendre du temps. Et je pense que des gens qui maîtrisent ça, ils peuvent en faire un métier quasiment à part entière parce que c'est la mesure de perf, c'est un métier.
Je pense qu'en effet, la mesure de perf avec la scalabilité, excusez-moi, je dis n'importe quoi, il est tard. Avec la supervision, c'est vraiment un métier particulier à part. On peut faire ça en tant qu'ops à côté, mais quand on veut aller plus loin, il faut vraiment s'y consacrer à plein temps.
Ah, par contre, tu as dit un petit truc important, c'est scalabilité.
Oui, je vais en parler après sur un des outils, justement. JMeter aussi, je crois qu'on en a brièvement parlé. Est-ce que quelqu'un veut nous donner un petit mot dessus?
Ouais, moi c'est ce que c'est un peu l'outil peut-être le plus ancien. Voilà, alors l'interface est peut-être un peu vieillotte, mais bon, ça fait le job, quoi. Moi c'est un outil que je trouve pas mal. Souvent, pas mal de possibilités, ça peut s'étendre avec des plugins. Voilà.
Et moi je voulais vous parler de mon petit chouchou qui est Locust, Locust.io, qui est un outil qui est écrit en Python. Et si je parlais de scalabilité, c'est parce que j'avais le nez sur la page pour me rappeler. Alors, de mémoire, c'est un DSL Python, c'est assez simple, parce que moi, je ne connais pas Python, et j'ai pu écrire des scénarios. Alors, c'est des scénarios qu'on écrit, il n'y a pas besoin d'interface graphique, on écrit des scénarios, ça s'interface sur du web. C'est distribué et scalable, ça veut dire qu'en fait, nos scénarios, ils peuvent s'exécuter sur 1, 10, 20 machines en fonction de la puissance dont on a besoin pour tester notre infrastructure. Et ça nous fournit des rapports assez simples. Et c'est un petit outil qui est simple, mais qui fait son taf. Nicolas, tu voulais parler justement de scalabilité.
Alors juste avant, je vais ajouter une petite précision sur les outils de test de perf. En général, la gestion des assets, c'est epsilon dans vos problématiques d'infrastructure, parce que fournir des fichiers statiques, n'importe quel serveur Nginx peut le faire, et un moyen de bien simplifier la gestion de votre bande passante pendant les tests, c'est de ne pas charger ces assets, justement. Et donc, vous allez vous concentrer sur toutes les requêtes GET, POST, etc. de votre API. Et du coup, ça vous fait ça moins à rajouter dans vos scénarios de test qui, du coup, vont être beaucoup plus légers. Et du coup, je voulais aussi rebondir sur scalabilité. Donc, typiquement, quand vous utilisez des outils comme ceux dont on vient de parler, quel que soit l'outil, Gatling, etc., c'est si vous avez une prod avec un auto-scaling, désactivez l'auto-scaling, parce que sinon vous allez scaler à l'infini et votre facture sera au-delà, donc au-delà de ce que pourra payer votre boîte. Et surtout, votre test sera absolument pas pertinent, puisque ce que vous voulez, c'est mesurer à taux constant de VM. Donc c'est pour ça qu'avoir une plateforme de performance dédiée à ça, ça peut être vraiment intéressant. C'est vous pouvez tester, vous mettez 4 VM pour avoir une idée de ce que ça peut donner, puis vous lancez vos tests avec 10, 20, 30, 50 000 utilisateurs, et ainsi de suite. Et comme ça, vous saurez combien ça va vous coûter pour avoir le maximum d'utilisateurs. Par exemple, 50, ça va vous coûter 4 VM. Donc 100 000, ça va coûter 8, et ainsi de suite.
Alors c'est marrant parce que moi, je n'aurais pas donné ce conseil-là. J'aurais donné le conseil de limiter votre auto-scaling à peut-être 2, 3, 4 machines, mais pas plus. Parce qu'en fait, vous voulez aussi tester, en lançant vos tests de charge, que votre infrastructure, elle scale toute seule. Si vous le désactivez, vous ne pourrez pas tester cette fonction-là. Vous pourrez tester chaque serveur unitairement, mais si vous voulez tester la scalabilité, il faut limiter, en effet, pour limiter votre facture.
Et du coup, ça peut être un test complémentaire, effectivement, comme tu le dis, et avec un outil comme Gatling, je sais que c'est possible. Tu peux dire, tu commences avec un utilisateur, tu termines avec un utilisateur, et entre les deux, t'en mets 10 000, donc il fait une espèce de courbe de Gauss, et du coup, vous pouvez tester que votre auto-scaling group va grandir et que votre auto-scaling group va rétrécir. Effectivement, c'est aussi un test très intéressant.
Alors, je crois que tous les outils qu'on a cités là sont des outils libres. Là, on va parler d'outils SaaS qui sont pas des outils de test de charge, mais je crois qu'ils sont des outils de supervision / APM, ça dépend desquels. Moi, j'ai pas New Relic parce que ça a été longtemps mon chouchou. C'est simple à prendre en main, mais par contre, c'est assez cher. Il y a un APM qui est de mémoire et de réputation très efficace et une supervision qui est assez efficace. Je sais pas ce que vous en pensez.
New Relic, ça marche. Ma boîte l'utilise, mais on a tendance à transitionner vers autre chose, dans le sens que, comme je le disais au début, moi, aujourd'hui, on a du tracing en place avec un standard OpenTelemetry hein, qu'on a cité précédemment. On a des métriques au format Prometheus dans les applications, et en fait, on se rend compte que bah, la partie APM, est-ce qu'on en a encore vraiment besoin? Moi, c'est un peu ma philosophie aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'ai besoin d'un APM si j'ai des métriques et des traces dans mon appli? Bah, j'ai tout ce qu'il me faut en fait, et ça sera encore mieux, c'est que j'aurai la main, hein, où je pourrais vraiment avoir des métriques pertinentes, c'est moi qui les place, des vraies métriques, mes métiers parfois, sur le business ou autre, intégrées dans mes applications. New Relic ça marche très bien, mais voilà, moi je l'ai toujours, souvent je le vois utiliser, c'est-à-dire que les gens mettent un APM et ne mettent pas de métriques dans leurs applis, donc l'APM c'est là pour compenser. Au final, s'il y a une vraie culture de la métrique. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Je dis pas que c'est comme ça partout, mais je l'ai très souvent vu comme ça. Et moi, je le vois moins l'utilité des APM aujourd'hui s'il y a une culture de la métrique et de la trace. Aujourd'hui.
Nicolas, et après, je prends la parole.
Ouais, j'allais dire que moi, je conseillerais les APM dans deux cas. C'est vous arrivez sur une application, il n'y a rien du tout, mettez New Relic, ça coûte quasiment rien à déployer, hein, attention. C'est par contre, ça, vous allez casquer si vous avez du volume, mais bon, rien n'est gratuit dans la vie. Et c'est, si vous avez pas le temps de rajouter des métriques, mettez un APM, ça fera déjà ça qui vous permettra d'analyser le jour où vous aurez des problèmes. Et par contre, comme le dit Mathieu, c'est, si vous le faites vous-même, les métriques seront encore plus pertinentes, mais c'est un chantier qui peut être énorme si votre application a déjà 2 ans d'existence. Vous n'arriverez pas à des métriques rapidement, donc mettez un APM dans un premier temps, en même temps que le chantier pour faire vos propres métriques.
Bon, bah, du coup, moi, je vais donner une troisième voix encore différente et dissonante, mais c'est bien parce que du coup, on a des avis différents. Mettez en place une supervision, quoi qu'il arrive. Vous pouvez mettre en place Neuralink, Datadog ou je ne sais quoi. Si vous n'avez pas le temps, mettez un SaaS en supervision. Nous, on commençait par Neuralink. Datadog, c'est pareil, ça s'installe en 5 minutes. Il y a des rôles en cible, il y a ce que vous voulez, ça s'installe vite. Par contre, une fois que vous avez mis ça en place, et si vous êtes en phase de développement de votre application, vous pouvez mettre en place un APM. Et c'est comme ça que moi, je le conseillerais à mes développeurs, c'est en phase de développement, sur les environnements hors production ou production, mais dans un temps limité et court, en phase de développement, parce que c'est toujours au début du développement de l'application qu'on a des problèmes de performance et autres. Supervision plus APM vous permet d'avoir des informations hyper pertinentes. Tracing compris. Moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment utilisé le tracing, mais voilà, l'idée, c'est l'APM, c'est pas la peine de le laisser là ad vitam aeternam, ça sert à rien, c'est vraiment au coup par coup.
J'ajouterai une dernière chose sur ça, et c'est en lien aussi avec Datadog, donc comme ça on parlera des sujets suivants, c'est que pour moi c'est très important d'avoir des formats standards. Neuralink supporte le format OpenTelemetry, on l'utilise aussi comme ça. Et donc au lieu de se dire on va utiliser un APM propriétaire qu'on va installer dans l'appli et tout, on utilise des formats de métriques standards qu'on envoie ensuite à Neuralink, à Datadog, à Jaeger pour les traces, ou à ce qu'on veut, à Tempo de Grafana. Mais ça, c'est un détail. En fait, le stockage devient un détail d'implémentation. Et ça, c'est très important aussi pour moi. Et ça, c'est vraiment le futur pour moi, notamment OpenTelemetry. C'est l'idée de se dire, on va arrêter, voilà, on va avoir plusieurs peut-être plateformes cloud de stockage et d'analyse de métriques et de traces. Mais dans les applications, on aura un standard implémenté par Datadog, Neuralink, etc.
Ben justement, Datadog, ça fait peu ou prou la même chose que Neuralink. Moi, c'est devenu mon nouveau chouchou après Neuralink parce qu'il coûtait moins cher à l'époque. Datadog avait l'avantage aussi de faire un truc, je ne sais pas si Neuralink le fait maintenant, mais il fait supervision, il fait APM et il fait centralisation des logs. Attention, ça coûte très cher. C'est hyper facile à mettre en place.
Et il est cool votre plateforme.
Il est cool votre plateforme, c'est-à-dire.
Moi, c'est celui que j'ai essayé d'installer chez un de mes clients et en fait, on active l'agent PHP et l'application répond plus.
L'agent APM, tu veux dire PHP ou l'agent Oui, l'agent APM. C'est pour ça que je disais éviter de mettre trop longtemps en prod des APM parce que les APM c'est consommateur. Hein. Faut le rappeler. Hein.
Je crois qu'il y a une théorie quantique qui dit que tu peux pas mesurer un système sans le modifier lui-même, un truc comme ça. Donc, c'est valable aussi dans l'informatique.
Exactement. On a Rollbar, qui est un SaaS que je ne connais pas. J'avais entendu parler de nom, je ne sais pas. Est-ce que l'un de vous l'a utilisé ?
Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup utilisé. Pour moi, c'est un des éléments qui est super important. Ça permet de remonter les erreurs qui sont les plus fréquentes aux développeurs. Et après, on va cocher la case de c'est bon, ça c'est traité, ça c'est corrigé dans tel autre truc. Mais ça vous permet d'avoir vos stack traces très facilement. Et comme disait Mathieu tout à l'heure, à partir du moment où tu as un cluster cube, nomade, etc., tu vas pas t'amuser à te connecter sur tous les trucs. Et en fait, ça te permet de centraliser les stack traces. Et si je l'ai mis dans les APM, c'est qu'en plus, il fait APM. Donc je connais pas la partie APM. Mais par contre, pour collecter les stack traces, c'est un outil assez intéressant.
On a aussi Sentry qui est un SaaS aussi, mais je crois qu'il y a une version libre aussi qui voilà. Installée parce que GitLab le fournit en serveur.
Sentry, moi je l'ai beaucoup utilisé, j'utilise toujours. Alors la version SaaS, la version on-premise déjà, c'est impossible à installer. Il y a 50 dépendances. Enfin bref, je pense que c'est by design. En fait, avant c'était très simple à installer. À un moment, ils ont fait une usine à gaz, comme ça ils se sont dit tout le monde va aller dans le cloud. Moi, c'est mon avis, c'est du faux open source. Bref, après. Nicolas,
je trouve extrêmement médisant. C'est un bundle comme GitLab qui lance un script sur ta machine, construit les images Docker et déploie les images Docker.
Oui, voilà, mais bon, c'est. Enfin, Christophe connaît aussi mon avis sur GitLab pour gérer aussi du GitLab. Alors on pourrait parler de performance et de Ruby et de Sidekick, mais on pourrait faire un podcast dédié à ça, je pense. Mais sinon, Sentry, ça marche très bien, mais on est là aussi plus sur de l'analyse de log, de stack trace notamment. Donc moi, Sentry vient vraiment pour investiguer un problème et pas pour le détecter. Là, moi, je m'attends à avoir un problème de perf et détecter via des métriques. Sauf si ça a changé depuis. Nicolas, je te vois
En fait, moi, j'ai déployé la version open source pour CGWire et en fait, il y a aussi la partie télémétrie, performance, etc. Donc, si ton besoin principal pour tes développeurs, c'est d'avoir les stack traces et que toi, tu veux avoir un petit peu d'APM, bah, faut regarder du côté de Sentry. Je suis entièrement d'accord, c'est une usine à gaz, mais ça rend bien service.
Oui. Et n'oubliez pas que Dieu tue un chaton à chaque fois que vous détectez un incident via une alerte Sentry. Hein. Vous ne faites pas d'alerting sur des logs, s'il vous plaît.
Oh là là. Oh là là.
Alors, par contre, pour conclure sur ces outils-là, moi, j'en ai utilisé pas mal, des outils comme ça, et j'ai souvent eu des problèmes de performance sur ces outils parce que j'avais trop de VM, applications, etc. qui envoyaient des logs à ces trucs-là. Et en fait, mon métier, c'était débugger les perfs des APM.
Ok, alors évidemment, on ne peut pas tous les citer parce qu'il y en a énormément en SaaS, etc. Donc, on va passer aux solutions libres et open source, libres et ou slash open source. Donc, il y a OpenTelemetry dont on a beaucoup parlé. On vous met le lien en description. Tu parlais de problèmes de performance. Du coup, je vais parler de NetData, qui est un petit outil de supervision qui est très léger. À installer sur les serveurs et qui permet d'avoir des données en temps réel vraiment assez pertinent. Je trouve que c'est un bon complément au deuxième qui suit, qui est la stack Prometheus, Loki, Grafana, Alert Manager, etc. Grafana fait beaucoup d'outils de ce type-là. Je crois qu'ils n'ont pas encore d'APM, du coup. Oui, Nicolas ?
Bah en fait, NetData, tu peux le déployer soit sur une seule machine et dans ce cas-là, tu as le IHM, mais tu peux aussi pousser les données dans autre chose, comme Prometheus, InfluxDB, etc. Et du coup, tu vas retrouver exactement tes mêmes métriques.
Oui, tu peux agréger les métriques. Moi, c'est vrai que je ne l'utilise pas dans ce cas-là, mais c'est en effet une possibilité. Donc si vous utilisez Prometheus, Loki, Grafana, bah, tous ces outils-là permettent de faire de la supervision, la centralisation de logs, et on n'a dit pas d'APM.
Alors, non,
précision peut-être.
Comme...
Ouais. Oui, vas-y.
Qui ?
Comme Mathieu l'a dit plusieurs fois, ne mettez pas d'APM, ça ne sert à rien. Faites de l'open télémétrie dès le début dans votre projet, mettez des métriques dans votre projet et utilisez la stack Prometheus, Grafana, Tempo. Et en fait, vous aurez plus besoin d'APM et en plus, vous aurez une solution open source. Et si vous voulez dépenser des sous, Grafana, ils vous les prendront.
Et je rajouterai une chose, c'est que Prometheus, c'est très bien. Moi, je l'utilise. Par contre, bah, on peut avoir des problèmes de perf sur Prometheus. Mais moi, j'ai des instances à 20, 25 gigas de RAM. Ça monte aussi très vite sur des gros environnements, mais c'est un autre détail. Juste une chose, c'est que Prometheus n'est pas fait pour du stockage de métriques long terme. Prometheus a une rétention de 7 jours, nous 2 jours même, voilà. Et souvent, on passe par des outils pour avoir du... Parce que la performance, c'est aussi intéressant de voir faire des analyses sur le long terme, à une semaine, un mois, 6 mois, etc. Et donc là, on retrouve des outils comme, alors, historiquement, Graphite, par exemple. Maintenant, on voit des choses comme Cortex, qui a été sorti récemment par Grafana, qui est un truc de storage long terme pour Prometheus. Nous, on utilise Thanos. Dans mon entreprise, qui marche également très bien. Et l'idée, c'est déjà d'avoir accès à ces métriques long terme, parce que Prometheus, comme je l'ai dit, a une rétention très faible, mais aussi de pouvoir faire du sampling. Donc, dire, à 6 mois, je garde, enfin, 3 mois, je garde toutes mes métriques, entre 3 et 6 mois, je garde toutes mes métriques, mais sur une, j'en prends une toutes les 5 minutes, par exemple, et à 6 mois et 1 an, c'est une toutes les heures. Et donc, ça, c'est aussi un aspect important sur l'évolution de long terme des performances, d'avoir ce genre d'outil et vraiment de penser sur plusieurs mois.
Historiquement, on avait des outils comme Cacti qui utilisaient des bases RRD, et RRD c'était quoi? On précisait la temporalité de je veux garder telle métrique sur tel calcul sur tant de temps, et en gros sur une année je veux garder le maximum, la moyenne, le minimum, etc. Et la base elle tournait automatiquement, et ça c'était génial, et c'est vrai que ça me manque beaucoup dans Prometheus, ouais.
Bah, du coup, on peut parler de Cacti, Nagios, etc., mais qui sont des outils un peu vieillissants quand même.
Ouais, mais comme on est des ingénieurs DevOps, on utilise des outils totalement hype et on n'utilise plus des trucs de dinosaures.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vu qu'on a parlé de la stack Grafana, on peut parler de la stack Elastic, puisque moi, ma préférence va à la stack Grafana, mais la stack Elastic, ELK, Elasticsearch, Logstash et Kibana, sont une stack de supervision assez répandue. Et Elastic a aussi un APM, je sais, vous avez dit je ne sais combien de fois, n'installez pas d'APM, mais bon, voilà, il fallait qu'on en parle.
Le gros intérêt d'Elastic, c'est qu'il n'y a qu'une seule base de données, et si vous avez des gens qui savent gérer de l'Elasticsearch, utilisez Elastic pour collecter vos logs, vos metrics, parce que bah, vous aurez les ingénieurs qui sauront scaler votre cluster Elastic pour les metrics performance, et vous n'aurez pas un énième techno à rajouter dans votre infra qu'il faudra gérer. Parce que comme le disait Mathieu et Prometheus, au bout d'un moment, ça va se casser la gueule. Et si vous gérez déjà un cluster Elastic à côté, bah, vous aurez un cluster Elastic de plus. Et si vous faites du big data à côté, votre petit cluster Elastic pour le gérer le système, ça sera peanuts.
Merci. Moi, j'ai rajouté dans la liste Zabbix, hein, qui a un outil de supervision aussi libre. Oui, Nicolas ?
Ben, je l'utilise.
Et ben voilà, tu l'utilises. Pourquoi tu ne l'as pas mis alors ? Tu n'y avais pas pensé ou
Parce que je suis en train de le virer petit à petit. Mais...
Ben, je ne l'ai pas testé, mais il faut qu'on le cite.
Alors, ben, du coup, je peux expliquer rapidement. Au tout début, c'était un concurrent à Nagios pour faire de l'alerting. Le principe, c'est qu'il y a une base de données Postgre dans laquelle on injecte des données. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ces données-là, ils s'en servent à la fois pour l'alerting et à la fois pour des graphes pour faire de la performance. Donc, ça va vous remplacer votre couple Prometheus, Alert Manager et Grafana. Et c'est assez sommaire, c'est en train d'évoluer petit à petit et ça devient de plus en plus modulaire pour prendre en compte les instances cloud, etc. C'est juste que bon bah c'est un petit peu vieillissant et maintenant je préfère la stack Prometheus, mais Zabbix c'est très très intéressant et si vous voulez un système d'exploitation pour professionnels comme dirait un copain, Zabbix existe depuis très longtemps et c'est un vrai système de monitoring d'alerting qui prend en compte plein de trucs comme des plages de maintenance et ainsi de suite que vous pouvez faire avec Prometheus, mais différemment, il va falloir scripter tout par vous-même.
Et enfin, on va finir par deux outils de tracing. Donc, Zipkin. Qui veut nous parler de Zipkin ?
Jamais utilisé.
Moi, je l'ai mis parce que je connais deux noms. Mais voilà, c'est un outil de tracing.
Bon, du coup, c'est un outil de tracing qu'on n'a pas utilisé. Donc, s'il y en a qui l'ont utilisé, dites-nous-le en commentaire. Dites-nous, hey, j'ai utilisé Zipkin, c'est bien. Hey, j'ai utilisé Zipkin, c'est à chier. Enfin bon, bref, donnez-nous votre retour, parce qu'on l'a pas, du coup. Mais on l'a cité. Et enfin, il y en a un, en effet, que je connais, c'est... Alors, Jaeger, c'est comme ça que ça se prononce ?
Jaeger, ouais, comme le Jaeger Master, je présume. Que j'utilise pas. Moi, mes traces sont ailleurs, mais non. Mais après, moi Jaeger, j'ai ouvert la doc, j'ai vu qu'il fallait Cassandra. J'ai refermé, en fait. Ou Elasticsearch, je crois, c'est au choix.
Et qu'est-ce que tu utilises alors, Mathieu, pour tes traces?
On a tout dans New Relic. Mais c'est de l'Open Telemetry.
D'accord. Bon, d'accord. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Alors, je crois que c'est probablement l'épisode le plus long qu'on aura enregistré parce que je vois mon petit compteur, on est déjà à 1h37 minutes. Donc, on va finir à 1h40.
Oui, mais Nicolas. D'ici la sortie d'épisode, on aura enregistré d'autres qui auront duré encore plus longtemps.
J'espère que non. Nicolas dit ça parce qu'on a de l'avance, on a plusieurs mois d'avance, donc quand on enregistre cet épisode-là, il sort plusieurs mois d'après pour vous. Mais j'espère que non, parce que ça commence à être long, il est tard, il fait chaud. Je nous vois tous en sueur là. Donc, cher compagnon, si tu as apprécié ce podcast, viens en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. Si tu n'es pas inscrit, inscris-toi. C'est dans la description. Moi, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce podcast qui était encore une fois très intéressant. Je pense qu'on n'a pas fini de faire le tour du sujet de la supervision, de l'alerting et des tests de performance. On y reviendra probablement dessus un jour, mais pas tout de suite. Du coup, je vais vous laisser le mot de la fin et je ne vais pas commencer par Mathieu, comme ça il aura le temps de préparer son mot de la fin. Et je vais commencer par Nicolas.
Keep calm and DevOps.
Merci Nicolas. René, quel est ton mot de la fin ?
On a quand même vu deux technologies à la fin. On a parlé des hard tools et de... Ah zut, bah, du coup j'ai mangé le... J'ai mangé le
Zabbix.
Zabbix. Moi, c'est un truc qui m'intéresse, c'est que c'est pas parce que des fois c'est des technos un peu anciennes qu'elles sont forcément mauvaises. Donc voilà, ça sera mon mot de la fin. Regardez parfois des technos qui sont un peu vieillissantes, il y a des choses qui sont des fois pas si mal.
Je suis d'accord avec toi, il faut choisir la techno adaptée à son besoin. Mathieu, tu as eu le temps de préparer ton mot de la fin, donc tu as le mot de la fin de la fin.
Mon mot de la fin, c'est que mettez des métriques dès le début dans vos applications et n'utilisez pas les, comme on l'a dit plusieurs fois, la solution de facilité que sont les APM. Parce que sur le long terme, vous allez vous mordre les doigts et en plus, ça vous coûtera très très cher. Dans tous les sens du terme.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.